c'est plutôt le temps de parler vélo. Et pour ce faire, on va retrouver justement la directrice des programmes chez Vélo Québec, Magali Bebron. Salut Magali.
Allô David.
Cette semaine, dans ta chronique, tu viens nous parler d'un enjeu qui est encore assez récent dans le monde du vélo, car tu viens nous parler du besoin ou d'un besoin d'avoir un encadrement des vélos à assistance électrique.
Exactement. Vous avez peut-être lu dans le Journal de Montréal en fin de semaine un article au titre assez accrocheur. « Flou juridique autour d'un vélo électrique qui peut rouler à 90 km/h ». Vous vous êtes peut-être dit que ce titre sensationnaliste exagérait un peu. Oui, certes, mais derrière les cas extrêmes rapportés par l'article, il faut vraiment qu'on se parle des fameux vélos à assistance électrique. Je vous propose pour ça de commencer avec une définition pour qu'on sache de quoi on parle. Je vais vous référer à la définition du règlement sur la sécurité des véhicules automobiles du fédéral. Vous pensez peut-être très naïvement qu'un vélo à assistance électrique, en partant, c'est un vélo avec un moteur électrique. Eh bien, oui, mais non. Certes, un vélo électrique, ça doit avoir un guidon et deux roues, maximum trois, et ça a aussi un moteur électrique. Jusque-là, tout va bien, right? Mais pensez-y à nouveau. Qu'est-ce qu'il y a aussi un guidon, deux roues et un moteur électrique? Vous donnez votre langue au chat, hein? Ben oui, les scooters électriques et les motos électriques. Vous vous dites alors, sûrement le législateur a prévu d'autres critères. Et en effet, le législateur fédéral a prévu quelques autres critères. Il a donc limité la vitesse maximale de l'assistance à 32 km/h et il a précisé que le vélo à assistance électrique devait aussi être équipé de pédales et qu'il devait pouvoir être propulsé par l'effort musculaire. Comprendre, tu dois pouvoir pédaler pour faire avancer ton engin. J'insiste sur le mot « pouvoir », bien différent du mot « devoir ». Tu dois pouvoir pédaler, mais ça ne veut pas dire que tu dois pédaler, parce que dans le fond, la définition accepte aussi les engins qui ont un accélérateur à la poignée pour enclencher l'assistance électrique. Maintenant, mettez-vous à la place de l'industrie des scooters et motos électriques. Si ton engin est considéré comme un scooter ou une moto, ça veut dire qu'il va falloir l'immatriculer, puis le conducteur va possiblement devoir obtenir un permis de conduire de classe 6, selon le type de véhicule, son âge et les autres permis qu'il a déjà. Alors, qu'est-ce que les fabricants de scooters et motos électriques ont fait pour aller chercher un nouveau marché avec pas mal moins de contraintes, puis en bonus, l'autorisation de circuler sur les voies cyclables? Ils ont appliqué la définition au pied de la lettre. Alors, ils ont bridé leurs engins à 32 km/h, ce qui se fait assez facilement dans le logiciel. Puis, ils ont ajouté des pédales de vélo ridicules sur leurs engins. Et tadam ! Voilà les scooters et motos électriques transformés en vélos électriques en un coup de baguette magique.
Ça, c'est, belle, la vie. C'est vraiment en respectant la loi, en plus.
Exactement. Ils ont pris au pied de la lettre, là. Donc, le problème, c'est que sur le terrain, hein, c'est-à-dire sur les pistes cyclables, les sentiers multifonctionnels, etc., les cyclistes qui ont de bons vieux vélos, ils n'apprécient pas trop de devoir cohabiter avec ce type d'engin. Et on les comprend. Se faire dépasser par ça, c'est vraiment pas le fun. Puis en cas de collision, ça fesse pas mal plus fort. C'est une simple question de physique, hein, et je reviens à mon calcul de l'énergie cinétique que j'aime beaucoup et qui ne trompe pas. Plus un véhicule est lourd et plus il est rapide, plus la violence en cas de choc est terrible. Et c'est exponentiel en plus parce que la formule, elle est au carré. Donc pour faire simple, entre un vélo qui circule à 20 km/h et un scooter qui circule à 30 km/h, la violence de l'impact, elle est multipliée par 6. Et ça, c'est même sans compter le poids additionnel d'un second passager, puisque tous ces engins-là, ils permettent également de transporter un passager adulte. Et ça, c'est aussi sans compter que la vitesse maximale autorisée, c'est assez facile de la changer sur ces engins-là après quelques recherches sur Internet. Ce qui m'amène aux deux cas rapportés par le Journal de Montréal cette fin de semaine. Dans un premier cas, à Montréal, le SPVM a intercepté quelqu'un qui roulait sur une moto électrique à une vitesse à peu près constante de 40 km/h selon l'odomètre des policiers qui l'ont suivi pendant un bout. En cours, l'usager a tenté de prouver que son engin correspondait bien à la définition d'un vélo à assistance électrique, notamment en produisant une vidéo où il démontrait, mais avec difficulté, sa soi-disant capacité à propulser l'engin par son effort musculaire en utilisant les pédales. Je ne sais pas vous, mais je paierais assez cher pour voir cette vidéo-là parce que ça doit être assez cocasse voir quelqu'un essayer de pédaler une moto. Mais bon, de toute façon, le juge a retenu qu'au quotidien, les pédales, elles étaient plutôt attachées vers l'arrière et il a donc jugé que cette moto n'avait rien à voir avec un vélo électrique et ne pouvait donc pas être exemptée d'immatriculation.
Okay. Fait qu'il y a quand même de l'espoir au moins pour qu'on puisse distinguer un petit peu...
Faut croire que les juges ont peut-être un petit peu plus de bon sens que les législateurs. Dans un second cas, encore plus spectaculaire peut-être, les policiers ont intercepté à la chute en mai 2021 quelqu'un qui circulait sur un engin semblable, mais cette fois, tenez-vous bien, à 79 km/h.
Wow.
Pensez-y deux minutes là. Est-ce que vous aimeriez ça lors de votre balade vélo du dimanche sur une piste avec vos enfants, croiser le chemin d'une moto électrique à 79 km/h ? Dans une cause qui s'est rendue jusqu'en cour supérieure, le juge a relevé, avec raison, qu'il était temps de mettre fin au, entre guillemets, « flou juridique » qui permet aux fins finaux qui vendent et conduisent ces engins-là de rire du monde. On pourrait penser que ce flou juridique est à imputer au gouvernement fédéral et son règlement sur la sécurité des véhicules dont je vous parlais plus tôt, sauf que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Parce que l'article qui définit ce qu'est un vélo à assistance électrique, il a été abrogé par le fédéral en février 2021. Et le fédéral a pris le soin d'en aviser les provinces un an à l'avance. Donc en février 2020, il a dit aux provinces « Préparez donc vos propres définitions parce que nous, on ne veut plus s'occuper de ça ». C'est une décision contestable hein, parce qu'on s'entend que ce serait drôlement utile de garder une uniformité entre les différentes provinces. Imagine l'utilisateur qui vit à Gatineau et puis qui veut pouvoir utiliser son vélo à Ottawa, puis là, il faut qu'il consulte deux réglementations.
Mais ça aurait été uniforme, mais là, en ce moment, le fédéral a bien pris le temps de dire justement aux provinces, préparez-vous, ça s'en vient.
C'est ça. Au moins, cette annonce-là a été faite bien en avance. Puis, nous, on s'est dit, ça pourrait être une bonne opportunité pour enfin la revoir, la maudite définition qui n'a pas d'allure, puis pour la resserrer, puis remédier à la lacune qu'ont largement exploité les vendeurs de scooters électriques. Enfin! Sauf que, si vous êtes rapide en calcul, vous venez de réaliser que ça fait 3 ans que les provinces ont été avisées de ce changement. Et pourtant, bruit de criquet. On est en février 2023 et le Québec ne s'est toujours pas doté de sa nouvelle définition. Ça fait 3 étés que des centaines d'utilisateurs s'achètent de nouveaux engins électriques et que les problèmes de cohabitation se font de plus en plus pressants, que les dents grincent, que les usagers traditionnels, entre guillemets, des pistes cyclables, expriment leur sentiment d'insécurité. 3 ans que les gestionnaires de réseaux cyclables régionaux essayent de gérer ce qui est autorisé sur leurs sentiers et leurs pistes dans ce flou juridique. 3 ans que l'industrie, avec ses bons et ses moins bons acteurs, se demande à quoi va bien pouvoir ressembler la nouvelle définition et qu'est-ce qu'on va vouloir dire demain matin quand on va parler de vélo à assistance électrique. Est-ce que leurs engins vont tout à coup être considérés hors la loi? Est-ce qu'ils vont devoir aller chercher une immatriculation? Toutes ces questions-là se posent.
Puis du côté même du grand public, excuse-moi Magali, mais même pour le grand public, on ne sait pas ce qu'il y en est. On les croise sur les routes, mais on ne sait pas est-ce qu'ils ont affaire là. Est-ce que la vitesse est correcte? Est-ce que c'est trop rapide? C'est difficile en tant qu'usager de savoir.
Mais tout à fait, mais je pense qu'on a tous le bon sens de dire un scooter puis une moto électrique n'ont rien à faire sur une piste cyclable. Puis je ne dis pas que c'est simple de légiférer dans ce dossier, surtout quand le Québec est dépendant d'un marché nord-américain où il y a toutes sortes d'engins, puis nous, on représente bien peu de choses à l'échelle de ce marché-là. Sans compter qu'il y a déjà plein d'engins sur les routes, puis il y en aura encore plein d'autres qui vont s'ajouter au printemps prochain, toujours sans définition. Donc il y a plein de considérations à prendre en compte. Mais chez Vélo Québec, quand on a pris part au groupe de travail sur le sujet en septembre 2021, on est arrivé avec 2 propositions. La première, de limiter la vitesse de 32 km/h à 25 km/h. Puis 25 km/h, c'est la vitesse des vélos à assistance électrique en Europe. Et là-bas, ça semble pas mal suffisant pour la plupart des besoins. Même que malgré ça, ils constatent une hausse des blessures et ils travaillent sur des projets avec vraiment toute l'intelligence des véhicules aujourd'hui pour pouvoir limiter davantage la vitesse des véhicules quand ils rentrent dans un centre urbain et qu'il va y avoir donc plus de monde. On a eu pas mal de réactions négatives du public à cette proposition parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris goût à leur vitesse de 32 km/h, on les comprend. Mais ce qui est agréable pour nous, est-ce que c'est correct pour autant de l'imposer aux autres usagers des voies cyclables qui sont par définition des usagers vulnérables? Je pense que c'est une question qu'on est en droit de se poser. La deuxième proposition qu'on avait, c'était de dire que par définition, un vélo, ça se pédale. Et un vélo à assistance électrique, ça devrait donc fournir une assistance uniquement en complément du pédalage de l'utilisateur. Donc, les accélérateurs à la poignée, on les autoriserait uniquement pour faciliter le démarrage, parce qu'on sait que ça, c'est vraiment un avantage au moment où on repart après un arrêt. Ça vient améliorer la sécurité. Mais on pourra envisager que rendu, mettons, à 5 km/h, faudrait pédaler pour continuer à avoir de l'assistance. Puis là aussi, la proposition ne fait pas l'unanimité, il y a des pour et des contre, mais on se disait qu'au moins avec ce critère-là, ce serait vraiment simple de se débarrasser des scooters et des motos électriques. Alors, qu'est-ce qui sera retenu de nos recommandations? On a vraiment hâte de le savoir, on a hâte de voir si on va enfin avoir les bons outils pour pouvoir gérer qui devrait avoir le droit d'utiliser le réseau cyclable. Il est vraiment, vraiment temps qu'on règle ce dossier-là.
Puis qu'on Bien, qu'on prenne le temps justement de légiférer de la bonne façon, qu'il n'y ait plus de flou autour de tout ça, puis que bien, on sache à quoi s'en tenir.
Ça serait... prenne le temps, mais probablement pas 3 ans supplémentaires, s'il vous plaît.
Non, pas 3 ans, parce qu'on a déjà eu l'avertissement, fait que on est supposé de déjà avoir les outils en main pour pouvoir prendre les décisions. Magali, merci beaucoup d'avoir fait la lumière sur cet enjeu-là avec nous aujourd'hui.
Bonne journée, David.
À toi aussi.